syndicat de la boucherie. Des voisins parlent d'un gros bruit. Ce craquement, c'est celui de l'avion qui s'écrase. Une chute heureusement amortie par des branches de sapin. L'avion a heurté la cime des arbres avant de se retourner et de tomber. Les deux occupants sortent d'eux-mêmes de l'appareil, juste choqués. Céline Loiseau, France Bleu Basse-Normandie pour France Inter.
15h, passé bientôt de 4 minutes sur France Inter.
Allô la planète, Eric Lange.
On s'est déjà parlé, je ne sais plus où vous étiez.
J'ai en quelque sorte devant moi une page blanche.
Donc c'est une occasion d'aller voir et de rendre compte.
Vous êtes parti comme ça sans vous poser de questions.
Tu peux aller où tu veux, c'est toi qui es le maître du monde.
Moi le soir j'adore rentrer du boulot et puis vous écouter, j'aime bien.
Vous m'aurez tout fait dans cette émission.
Je vous laisse, j'ai des copains qui arrivent.
Il faut aimer les déserts, il faut aimer le vide, l'immensité.
Vous passerez un petit coup de fil de là-bas.
Allô la planète, du lundi au jeudi à 23h.
France Inter, partenaire de l'exposition Dans l'ombre des dinosaures, grande galerie de l'évolution au Jardin des Plantes à Paris. Une plongée profonde dans le temps, à l'époque où les dinosaures et petits mammifères cohabitaient sur Terre. Une scénographie ludique et des fossiles exceptionnels. Dans l'ombre des dinosaures, à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
France Inter, la différence.
Et c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
L'État français avait certainement moins de ressources financières en 1945 qu'il pourrait en avoir aujourd'hui s'il se donnait les moyens de les avoir. Ce qui supposerait bien sûr de penser l'État comme une collectivité et non comme le fournisseur attitré, voire privilégié, de l'insatiable cupidité d'intérêts privés.
7h du matin, tu vois, ça fait 2h que je suis debout. J'habite dans le Haut-Languedoc et depuis plusieurs jours, on voit les viticulteurs s'agiter avec des grosses bonbonnes de produits chimiques qu'ils sont en train de mettre sur leur vigne. Alors Daniel, ça serait bien que tu fasses un petit reportage. Je sais que tu es sollicité dans tous les sens, mais un petit reportage non pas sur les vins bio, parce que ça veut rien dire en France, mais sur les vins nature, les gens qui utilisent réellement des techniques de vinification anciennes, qui travaillent beaucoup à la main sur leur vigne. Ça, tu vois, il y en a certains ici qui travaillent comme ça. Peu, très peu, trop peu. Mais malheureusement, tu vois, ils sont pas valorisés, ils sont pas aidés et ils ont pratiquement aucune publicité, ces viticulteurs-là.
Le repère du Pays d'Aix se réunit tous les deuxième et quatrième mardis du mois au bar Le Festival en bas du cours Mirabeau à 19h30. Nous avons choisi pour ce mardi 29 mai, de débattre sur le thème « La Grèce dans tous ses états ».
Bonjour Daniel. C'est curieux de constater qu'à une époque où le communisme n'existe plus, le flambeau anticommuniste délaissé par la droite est régulièrement repris par certains qui proclament en même temps de grands sentiments de gauche. C'était le cas, par exemple, dans le message passé vendredi à ton émission, apportant un correctif historique, rien que ça, à ton émission sur la résistance. Merci de passer alors le rectificatif suivant au soi-disant correctif historique. Premièrement, le pacte de non-agression germano-soviétique n'a jamais été ni une alliance, ni même un soutien. Son but était de retarder l'agression allemande, qui a bien eu lieu par la suite. Deuxièmement, ce pacte n'est intervenu qu'à la suite de l'échec de multiples tentatives d'alliance avec les Occidentaux, toujours repoussées par ceux-ci, qui avaient déjà signé les accords de Munich. Si on veut faire de l'histoire et pas de la polémique, on peut légitimement discuter de la justesse du calcul de Staline, mais pas en déformer la nature.
Eh ben, bravo, hein, pour un lundi de Pentecôte, ça faiblit pas. Dans la boîte vocale de la basse, j'y suis aujourd'hui. Il fait beau, et il fait chaud, et ça donne des idées, et ça donne des envies de se reproduire et de s'assurer une descendance. Et c'est ce que la basse, j'y suis, va faire sous vos oreilles jusqu'à 16 heures. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, c'est Julie de Belgique, mais là je vous appelle maintenant d'Istanbul. Je voulais témoigner de ce qui est en train de se passer ici. Il y a des centaines de personnes qui viennent de partout en Europe et du monde pour monter à bord de la Gaza Freedom Flotilla. L'objectif donc, c'est de casser le blocus à Gaza. Le bateau turc est parti hier, chargé de matériel humanitaire. Nous, on le rejoint demain à Antalya. Israël a dit qu'on ne rentrerait pas et qu'il était prêt à utiliser la force militaire. Nous, on compte vraiment, on est les seuls francophones à bord, on est 3 Belges. On compte vraiment sur la mobilisation de la société civile et politique. Et mobilisez-vous, allez devant les ambassades, demandez des comptes. Il faut que ces bateaux rentrent à Gaza. On est 9 bateaux au total. Voilà.
Salut Daniel, salut les AMG, c'est pour annoncer que le repère des amis de la basse Égypte de Briouze, dans l'Orne, aura lieu le mercredi 26 mai à 17h30. 26 mai, 17h30, au bar Tabac, le Brazza, 22 rue du Docteur Petit, à Briouze.
Les techniciens de maintenance, maintenant, on n'en rencontre quasiment plus. On est dans l'ère du remplacement du matériel. Qui est-ce qui a fait un nœud à cette courroie? C'est pas, ça marche pas comme ça une courroie de Nagra. Ça se règle. Il y a un endroit pour le régler. Je retrouve régulièrement avec des nœuds sur les courroies. Après, on peut plus les enlever. C'est une demi-heure de boulot. Il faut tout démonter pour. Oh là 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 là. Un appareil cassé, c'est un appareil en moins pour les formations. Donc, c'est cassé, on jette.
Ça, c'est la vie de Fifi, Antoine Chao, Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis aujourd'hui, fais des petits.
Flight number 2, arriving from New York.
Et oui, aujourd'hui, là-bas, fais des petits pour la troisième année consécutive avec Antoine Chao, on a animé un atelier de reportage radiophonique à l'école supérieure de journalisme de Lille avec des étudiants qui ont choisi la voie radiophonique et pas mal d'entre eux ont choisi effectivement de s'orienter vers le journalisme radio à cause d'émissions de reportage comme celle que vous écoutez régulièrement et qu'on entend encore sur pas mal quand même de nos radios de Radio France, c'est-à-dire de la vraie radio en couleur, en relief, sur grand écran. Sauf que on a fait comprendre à ces étudiants qu'il y a peu de chances qu'ils fassent ce genre de boulot. C'est pas nous qui les avons persuadés de ça, mais c'est leurs enseignants qui sont des gens extrêmement réalistes, extrêmement pragmatiques. Ils n'auront très peu de chances de faire ce genre de boulot pour ceux qui auront du boulot, car ici, dans cette école, comme partout, avant tout, l'obsession, la seule obsession, c'est avoir un boulot, avoir du boulot, une obsession qui écrase les grands rêves de grands reporters, de grands redresseurs de tort, de dénonceurs d'injustice et d'enquêteurs au long cours qui font les grands journalistes. Fini, oublié, dérisoire le temps où les journalistes se proclamaient bravement contre-pouvoir. Aujourd'hui, la précarité générale conduit au consensus, pas de vague, pas de sujet qui fâche, ni chaud ni froid, eau tiède. Les petits soldats du journalisme n'espèrent rien d'autre que l'uniforme. C'est dommage, c'est comme ça, mais bien sûr, il y a des exceptions, il y a toujours des francs-tireurs, des déserteurs, et on est toujours heureux de les rencontrer et de les encourager, et éventuellement de les planquer dans notre petite émission géniale et sur notre radio en général. Donc voilà. Cette année, ils étaient une douzaine. Et ben, ils se sont embarqués dans des sujets qu'ils ont choisis, dont nous avons discuté. Le choix des sujets, c'est quelque chose de très important, bien sûr. Comment on va angler ? Ah oui, ça c'est un verbe épouvantable employé par les journalistes, surtout les jeunes journalistes. L'angle qu'on va choisir. Et puis après, ben, le montage, la cuisine, le mixage. C'est toute une opération. Vous entendez ça, vous, chaque jour. Ça vous passe, ça vous rentre dans une oreille et ça vous ressort par l'autre en essayant de déposer quelques petites choses quand même dans votre, dans votre esprit. Mais c'est un boulot comme un autre, c'est un artisanat pour tout dire. Et ces étudiants eh ben, le découvrent avec nous, avec Antoine et moi-même. Et on a comme deux grands professeurs choisi deux de ces reportages qu'on a jugé suffisamment intéressants pour que tous vous puissiez jusqu'à 16 heures vous en réjouir. C'est là-bas si j'y suis, qui fait des petits.
Quand je lis dans la presse à scandale que la présentatrice du 20h est victime de violences conjugales, je me rue sur mon téléviseur, je traque le moindre petit détail qui pourrait la trahir en direct. Un bleu, un hématome, une entaille, une cicatrice un peu suspecte. Vas-y coco, balance l'info de la fraîche qui tâche et qui tient chaud. Les grèves ou les attentats en Corse, ça m'ennuie, c'est tous les jours pareil. Nicolas et Cécilia divorcent, je monte le son et je me réveille. Je voterai peut-être pour eux en 2012 s'ils se réconcilient chez le Drucker. Je veux des potins, je veux de l'amour, rendez-moi ma Lady Di entière. Vas-y coco, balance l'info de la fraîche qui tâche et qui tient chaud.
Vas-y coco, balance l'info de la fraîche qui tâche et qui tient chaud.
Hey coco, j'ai besoin de mon petit pote, hein. Faut que ça papote, faut que ça pipote, faut que ça ragote, faut que ça radote, faut que ça cacote, faut que ça cocotte, faut que ça tripote, faut que ça fricote, faut que ça complote, faut que ça sanglote, faut que ça bécote, faut que ça gigote. Ah, ah, ah. Quand je me sens vraiment trop seul, je sonne à la porte de ma voisine, pas pour lui proposer de faire un Scrabble, ni pour lui jouer de la mandoline. Excité comme de jeunes tourtereaux, on perd pas de temps en préliminaire, on se met à table autour d'un bon ragoût. Ségolène enceinte du prince Albert. Vas-y coco, balance l'info de la fraîche qui tâche et qui tient chaud.
Vas-y coco, balance l'info de la fraîche qui tâche et qui tient chaud.
Vas-y coco, balance l'info, balance, balance. Vas-y coco, balance l'info de la fraîche qui tâche et qui tient chaud.
Rapprochez-vous là, rapprochez-vous, on aura plus chaud. Bienvenue à vous toutes et tous. Merci d'avoir répondu présent pour défendre l'emploi industriel et soutenir les salariés de notre usine qui défendent leur emploi menacé par des actionnaires voraces bien assis dans leur luxueux bureau à Stockholm.
Hélène Labonelli, responsable de ressources humaines SCA.
C'est une nouvelle particulièrement difficile à accueillir. Ici, en l'occurrence, 280 personnes qui perdent leur emploi. Et bon, c'est difficile.
Vous êtes triste ou ça ne vous paie pas grand-chose, c'est juste votre travail
Ah non, c'est difficile, c'est difficile. En plus, dans le bassin ici, on a déjà un taux de chômage qui est assez important, à 15%. Je veux dire, le bassin d'emploi ne pourra pas absorber facilement 280 personnes qui seront sur le marché du travail. Donc,
Et vous-même, ça fait combien de temps que vous travaillez dans cette entreprise ?
Moi, je travaille ici depuis peu de temps, puisque je suis arrivée en novembre 2006.
C'est votre première crise que vous gérez ?
C'est la première fois que je suis amenée à gérer ce genre de situation.
Et ouais. Vous arrivez à dormir ?
Ça dépend des jours.
Trop angoissant.
Ça dépend des jours, ça dépend des jours. Oui, c'est difficile parfois. C'est difficile parfois.
Qu'est-ce qui est difficile ? Vous avez pitié ? C'est la compassion ? Ou c'est juste la situation dans l'ensemble qui...
Je ne sais pas très bien jouer de la trompette.
Brassens, il faut dire à l'époque, on se faisait remarquer quand on sortait avec lui. Les gens se retournaient sur notre passage. Parce que c'était un grand malabar avec un grand par-dessus sombre, noir, qui traînait très, très bas. la moustache agressive, une chevelure qui tombait sur les épaules, on aurait dit un bandit calabré.
Alors l'amitié, qu'est-ce que c'est ? L'amitié, si vous voulez savoir ce que c'est, 30 secondes.
Quand je suis avec Jean-Marie, c'est comme si j'étais avec un vieux manteau, si vous voulez, vous voyez. Ils vous tiennent quelque part, ils vous tiennent chaud. Je ne parle pas physiquement, hein. Je parle, ils vous tiennent chaud, ils vous tiennent en haleine, tant intellectuellement que psychiquement. Et puis, on se sent pas seul avec un ami. Je vais vous dire que j'en ai pas deux, j'en ai qu'un.
Dans le quartier, on est connu. Si vous allez au centre, on est connu. Vous demandez pour les deux copines, on est connu.
Les deux copines.
Les deux copines, oui, on est connu.
Et quand l'un va sans l'autre, les gens ils disent, elle est malade, pourquoi qu'elle n'est pas là? Et au soir, à 6h, elle vient voir les chiffres et les lettres ensemble.
Et le patron de la Talente, il est arrivé? Ça ne va pas traîner non plus avec lui. Hein, vous voilà?
Voilà, on est sur le bord de la Seine à Alfortville. Je viens juste de trouver la cimenterie où Daniel Claes nous a donné rendez-vous. Sa péniche est là, il vient de la décharger et puis on part avec lui.
Je suis né sur un bateau, ma mère a couché sur le bateau, donc j'ai passé toute ma vie sur le bateau, à part un an en service militaire. Puis bon, bah, je vais faire toute ma vie sur le bateau et dans 7 ans, je vais prendre ma retraite. Mais ça me donne déjà... C'est déjà appelé boule, comme on dit, parce que je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire entre 4 millions dans une maison. Ça va être très dur.
Voilà, elles ont pris le bateau. Je pense à cette étudiante qui a fait ce sujet sur les mariniers. Une autre voulait faire un sujet sur l'amitié, sur les mots de l'amitié. Une autre sur Brassens, sur Georges Brassens, dont on n'imagine plus aujourd'hui à quel point il fut interdit à la fin des années 50. Un autre encore sur un plan social qui vient voir la DRH et qui organise, met en place ce plan social alors qu'elle va être virée également. Bref, ils ont tous et toutes développé leur sujet, choix des sujets. Là, pour le coup, c'est pas l'actualité qui donne son diktat. C'est pas les news qui dictent le travail, c'est les journalistes eux-mêmes, puisqu'il s'agit de jeunes journalistes de cette école supérieure de journalisme de Lille, qui font leurs propres choix. Et après, ils sortent aussi du format, parce que généralement, bien sûr, on leur apprend à formater leur reportage à une minute trente, etc., dans le style de notre émission, ou d'émission de grands reportages. Eh bien, on a le temps, on prend plus de temps, on a le temps de développer, mais il faut apprendre aussi à développer, il faut apprendre l'entretien, il faut apprendre le son, il faut apprendre la situation, la description, et puis ensuite le montage, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde, comment on monte, tout ça, comment on met en scène un reportage, parce qu'il s'agit bel et bien de mise en scène, comment tout ça ensuite sera mixé, éventuellement agrémenté ou augmenté de musique, d'archives éventuellement. Voilà tout le travail auquel se sont livrés ces étudiants, encadrés par le grand Antoine Chao et moi-même. Et c'est évidemment à chaque fois un plaisir. C'est un plaisir aussi pour nous, parce que c'est une occasion de réfléchir sur notre boulot. On n'a pas forcément... Voilà, on travaille à toute vitesse au jour le jour, sans toujours avoir le recul sur ce que nous faisons. Donc là, c'est une occasion de réfléchir aussi bien sur notre travail de genre de radio, mais aussi sur le journalisme plus largement, et puis de voir les aspirations de ces étudiants que vous allez entendre bientôt sur les antennes des radios. Là, il s'agit de ceux qui ont choisi la voie radiophonique et qui sont un peu inquiets, évidemment, chaque année, de savoir s'ils vont décrocher du boulot. C'est leur inquiétude majeure, presque exclusive. On peut le regretter, je crois qu'on doit le regretter, tant l'audace est rare avec ces années que nous traversons de terreur face à l'emploi. Bien sûr, il s'agit d'étudiants qui ont des études, qui sont des bacs plus, et qui sont beaucoup moins inquiets que d'autres quant à l'emploi, mais enfin, qui sont quand même très inquiets au point que leur imagination et que la responsabilité du métier de journaliste passe un peu au deuxième plan. Quoi qu'il en soit, on a eu de très beaux reportages, très beaux sujets qui nous surprennent parfois parce que il faut bien avouer que parfois on n'y avait pas pensé, on n'avait pas pensé à faire un sujet comme celui qu'on va écouter d'Anne Andlauer qu'elle a intitulé Kovalitsyn.
Alors ici, il y avait un petit chalet, c'est là que j'habitais.
Votre maison était juste là?
Elle était là, oui. La haie est encore d'origine. Oui, c'était là. Ces maisons-là n'existaient pas parce que c'était, comme on appelle dans les mines, le carreau de la mine, le terrain.
Donc on vient d'entrer dans Ferque, là?
Là, nous sommes dans la commune de Ferque, le hameau des Lingans. Alors ici devant, là, il y avait une butte de terre noire, on appelait ça un terril. Ici, il y avait un transformateur qui ne ressemblait pas à ça. Et c'est ici que ma mère nourricière est décédée, sur la route, à côté de moi. Le cœur a arrêté comme ça.
À cet endroit-là?
En 1941, le 1er juin 1941. Là, oui, là, la porte s'est effondrée comme ça. Alors, aussitôt, les gens qui étaient là m'ont pris. Et puis, je me souviens, on m'a dit, ah ben, elle est fatiguée, on va la mettre coucher. Puis, c'est tout. Après, je ne me souviens plus de rien. Un blanc. Maria. Tout le monde l'appelait Maria. Mais sur son acte de naissance, c'est Julia.
Déjà
un mystère, mais tout le monde l'appelait Maria. Je ne sais pas pourquoi. Et je m'en souviens très bien. D'ailleurs, j'ai encore une photo. Je suis photographié ici avec elle à l'entrée. Sur un petit vélo, elle me tient par la main. Après, je suis photographié derrière dans le jardin avec un vélo. J'ai toujours fait du vélo. Parce que derrière, c'était pas la butte. Il n'y avait pas de route qui passait. C'était des champs.
Et alors, Julia, Maria? Elle était mariée?
Ah oui, elle était mariée. C'était Maria Mille qui était mariée à Marcel Didier.
Ils avaient des enfants?
Non, justement, ils n'avaient pas d'enfants. Alors c'est pour ça qu'ils se sont mis en quête d'un enfant. Donc ils ont fait une demande à l'assistance. J'étais là et... ils m'avaient pris dans l'intention de m'adopter. Mais à cette époque-là, les deux époux devaient avoir 40 ans. Et mon père était né en... Enfin, pour moi, c'est mon père, Marcel Didier, était né en 1901. Donc, quand elle est décédée en 1941, il allait avoir 40 ans le 3 août, elle est décédée le 1er juin. Je n'ai pas pu être adopté. Donc, les choses ne se sont pas faites. Je vais me mettre à l'abri, je commence à...
Il commence à pleuvoir, à rentrer.
C'est bizarre, hein. Je me revois partir après, chez la sœur de M. Didier, mon père de cœur, on va dire, dans les mines, à Grenay. Et là, je me souviens, je me suis retrouvé subitement avec... deux grands frères et une petite sœur. La première fois qu'on m'a dit que j'étais polonais, c'est à l'école, dans les mines. Alors que je lui ai répondu non, ils se sont trompés. Ça m'a fait quelque chose. Quand il m'a dit que t'es un Polac, je lui ai dit non. Je suis français, je m'appelle Jean-Pierre Didier. Hein. Ah, c'est tout. Et puis, c'est seulement après, quand je suis parti à 10 ans en colonie de vacances. Là, il y a eu des doutes, déjà. Parce que, quand on est parti en vacances, on m'appelait Jean-Pierre, bon, c'est tout. Mais quand je suis revenu, j'ai attendu une journée dans les services de l'assistance pour que ma tante revienne me chercher. Là, on m'a appelé Kovalizine. Et puis, je suis parti à l'école, au collège à Boulogne. Alors là, c'était Kovalizine à tout va.
Et quand est-ce que vous l'avez abandonné, alors, le nom Didier ?
Ben, je l'ai abandonné à 12 ans, quand il a fallu que chaque fois que je remplisse ma copie, Kovalizine, ben oui, à chaque fois que je mettais le nom sur ma copie au collège, hop, je rendais ma copie Kovalizine. Sur les cahiers, ben, c'était comme ça aussi. Hein.
Sans faute.
Et sans faute, oui, oui. Alors, j'ai appris. J'ai l'impression que ça s'est passé comme ça, sans coupure. On croirait que mon nom est arrivé comme une plante qui pousse. Vous voyez, on croirait que c'est comme un fruit qui mûrit. Quoi, ça. Comme ça, tout doucement, je ne me souviens pas. Et puis, un jour, je rencontre des gens à Rexan. Ils étaient venus écouter une chorale ukrainienne. On s'est rencontrés. Et c'est là que, à l'entracte, j'ai parlé avec la dame. Il y avait des articles à vendre. Et puis je dis, ce sont des noms polonais. Et je dis, moi aussi, j'ai un nom polonais. Alors je lui ai dit, je m'appelle Kovalizine. Oh, mais elle dit, non, monsieur, ça, c'est pas polonais. C'est ukrainien.
Donc pendant 70 ans, quand on vous demandait...
Mes origines, je dis, voilà, je suis né en France, mais d'une mère polonaise. Alors, là aussi, je porte le nom de son mari qui n'est pas mon père. Parce que son mari l'avait quitté en 1930, il est parti pour venir en France, mais il est parti vraiment au Canada. Il n'a pas donné de ses nouvelles. Les Russes ont provoqué une famine en 1932. C'était pas la première, mais en 1932, on provoque une famine en Ukraine. Ils leur ont tout pris. Ils ont même pris les graines pour semer l'année suivante. Ma mère est venue en France. Elle avait une sœur qui était près d'Arras. Elle est venue aussi travailler dans les fermes. En 1932. Puis en 1935, il y a un mauvais courant d'air est passé par là. Je suis venu au monde. La clé est dedans, je ne peux pas rentrer.
On va raconter la suite avec vos photos.
Oui, c'est ça, oui.
Oh, excuse-moi.
C'est bien ici, chez Kovalizine. Je vous en prie.
Est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Un jus de fruits, un jus d'orange?
Je vais dire comme un vieux, ne dites pas non, moi je vais rien avoir.
Vous m'avez préparé vos archives.
Oui, j'ai préparé un peu. Alors vous voyez, c'est le chalet là, qui était perpendiculaire à la route. Et nous, on était là tout à l'heure.
Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Vous étiez blond ?
Oui, oui.
Avec les cheveux un peu longs ?
Là aussi, c'est moi. Quand je suis arrivé. En 9 mois, j'étais, vous voyez, à...
On n'était pas un gros bébé. Hein.
Ah non. Dites à l'assistance, on nous met dans un lit et puis on nous donne le biberon. Si on réussit à le boire, ça va. Si on réussit pas, tant pis. Hein. Voilà ce que j'ai, moi. Voilà. C'est ça. Les premiers papiers que j'ai eus, vous voyez.
Donc, Kovalizine Jean-Pierre, né le 22 juin 1935. Admis le 13 juillet 1935.
Il y a 3 semaines. Alors, un numéro matricule, un numéro de collier et une catégorie.
Numéro matricule 7399, collier 22. Et la catégorie, ça représente quoi?
Je sais pas.
Alors ça, c'est une lettre de 1956. Mmh. Cher ancien pupille, on est pupille jusqu'à quel âge?
21 ans. J'ai pris connaissance de votre lettre relative à vos origines. Je ne suis pas étonné de votre demande, car elle est bien naturelle. Bien que vous soyez maintenant sorti de mes services, je ne suis pas délié de l'obligation au secret professionnel. En ce qui concerne la révélation du lieu de votre naissance, je ne puis sous aucun prétexte y contrevenir. Cette mesure n'a d'autre but que de préserver votre intérêt. Vous devez comprendre que vous ne pouvez avoir aucun avantage à retrouver vos parents alors qu'ils vous ont abandonné à l'âge de 15 jours seulement et n'ont jamais demandé de nouvelles de vous, ni essayé de vous reprendre. Ça, c'est encore à voir, hein, c'est lui qui le dit.
C'est dur comme lettre, ça.
Ah oui, 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 oui.
Ça vous a pas découragé?
Non. Non, non, je dis, on verra plus tard. Alors maintenant, vous voyez, après avoir reçu votre lettre, j'ai fait un examen approfondi de votre situation. Ceci explique le retard de ma réponse. Je peux maintenant vous faire savoir que vous êtes né à Arras. Il vous sera possible d'obtenir un bulletin de naissance à la mairie d'Arras, service état civil.
Ouais, alors là, 62.
Alors c'est là que j'apprends que Madame Kovalizine, des Kiruk Tekla, le 6 octobre 1901, à Monilovoka, a résidé dans les communes suivantes, Saint-Venant, où elle exerçait la profession d'ouvrière agricole pour le compte de M. Duquesne-Paul, jusqu'au 3 janvier 1944. Ensuite, à Bourec, jusqu'au 31 mars 1945, qu'elle a quitté pour Lisbourg, où l'on ne trouve pas de traces de son séjour. Je suis allé à Bourec. À Bourec, on ne se souvenait pas d'elle. On n'a pas voulu m'en dire trop, j'ai l'impression.
Quand on vous a dit que c'était sans doute ukrainien, là, vous vous êtes mis de nouveau à la rechercher.
Et en ayant les noms, alors là, ça a été plus facile. Hein. J'ai retrouvé deux neveux, deux nièces.
Votre maman, alors, avait eu d'autres enfants?
Ah oui, avant moi, elle avait trois filles, toutes décédées. La dernière est décédée en 2003, je crois. Un peu de choses près, j'aurais pu... Oui, oui.
Rencontrer votre soeur.
Oui. En 2006, nous sommes allés là-bas. Et l'année passée aussi. Alors voilà ma mère. Tekla. Les photos qu'ils nous ont données en Ukraine. Alors me voilà. Et là. Et tout ça, c'est les sœurs. Et là, c'est le neveu chez qui nous sommes allés.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur votre maman, vos neveux?
Pas grand-chose. Elle était une très bonne cuisinière. Elle leur faisait des plats français. Et quand ils étaient petits, hein, donc quand elle les embêtait, elle leur disait en français, il me l'a dit, hein, « sale gosse ». Elle leur disait « sale gosse ». Et... j'ai vu sa tombe, une belle tombe, oui.
Et vous avez appris deux, trois mots en ukrainien?
Oh lolo! Très peu. Parce que quand on dit un mot en ukrainien, il faudrait lire la phrase, parce qu'il vous parle après. Alors on ne comprend rien.
Qu'est-ce que vous savez dire? Qu'est-ce que vous savez dire?
Je le regarde. Je
suis
trop
amoureux,
mon mari.
Je l'ai mis sur un morceau de papier.
Je le dis, calme-toi.
Oui, mais je ne sais plus ce que ça veut dire aussi. Si. Si. Il y a Dobriden.
Qui veut dire
bonjour.
Oui,
Dobriden. Jakspravi.
Comment
allez-vous? Oui, c'est tac.
Voilà. Et merci, c'est comment?
Ah.
Tu le sais, c'est parce qu'il est timide.
Bah non, c'est pas une...
Dayakuyu,
oui. Dayakuyu.
Merci.
Merci.
Vous l'avez dit beaucoup,
Oui, quand même, oui. Dayakuyu.
Vous l'avez appris en fait vraiment qu'à 70 ans, à l'âge où a priori on sait qui on est, à 70 ans.
Oui, oui, oui.
Et alors qu'est-ce que
je
ça
savais,
fait
je savais qui j'étais, mais je ne savais pas d'où je venais. Ah oui. Et je savais qu'il y avait un vide. Il y avait d'ailleurs, quand j'ai réussi à réunir tout, j'ai eu l'impression que on m'a enlevé une carapace. On aurait cru que il m'avait manqué quelque chose jusqu'à cette époque-là. À l'âge, j'ai tout, oui. Bon, sauf le père. Enfin, l'essentiel, c'est la mère. C'est apaisant. Oui, on ne cherche plus. On a eu la lumière, c'est tout. On n'est pas libéré, mais ça finit la vie. Ça finit à l'individu. Je suis fini.
Faut pas le dire comme ça.
Je suis fini, regardez.
C'était Kovalisine, un reportage de Anne.
Anne Luver.
Andlauer.
Comment ? Il y a le U là alors ?
Il y a un U à la place du V.
Ah là !
Voilà ! Voilà, voilà.
Pour l'ESJ de Lille, mai 2010.
Voilà, un magnifique reportage avec un mystère qui persiste. Pourquoi certains qui ne sont pas des artistes, qui ne sont pas des intellectuels, qui ne sont pas. Parviennent à employer les mots justes qui percutent, qui sont pleins de sens. Et ça restera pour nous un mystère total qu'on ne peut pas deviner par avance quand on rencontre quelqu'un qui a une histoire intéressante, passionnante, magnifique à raconter. Reste à savoir s'il aura ce langage radiophonique percutant qui fait naître à la fois des images, des idées, des sensations. C'est les mystères de ce métier. Et c'est un mystère qu'a réglé Roxane Pour, auquel au moins elle a répondu. Roxane Pour, c'est une des étudiantes de l'ESJ, l'École supérieure de journalisme de Lille, qui, dans le cadre de cet atelier radiophonique de reportage, a présenté celui-ci.
Ils ne désarment pas. Ces anciens mineurs marocains occupent depuis une semaine l'entrée de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à Noyelles-sous-Lens, peut-être plus pour longtemps. Le tribunal de Béthune saisi en référé doit rendre son jugement aujourd'hui. Ces mineurs gagnent entre 500 et 700 euros par mois. Tous demandent les mêmes droits que leurs collègues européens, mais voilà, à la fermeture des mines, ils ont signé une reconversion les privant des avantages en nature comme le logement et le chauffage.
J'attends la France, c'est droit de l'homme, la France, c'est un pays démocraté. L'arnaquino et puis c'est tout.
Moi, je m'appelle Samat Abdallah, président de l'association des mineurs et anciens mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais. Alors, moi, j'habite la région de Taroudant. À l'époque, la préfecture, c'est Agadir. Voilà, à 70 km de Taroudant. Et que moi, j'ai été déjà à Agadir, tant réparateur de cyclomoteurs. Ils sont venus me chercher, comme la plupart des mineurs marocains, dans les années 60. Moi, je suis arrivé à 63, en France.
Je me présente Bachar Eddy, j'ai 55 ans, je suis de nationalité marocaine. Donc je suis rentré ici en France en 1975, au mois de mars exactement. J'ai travaillé à la mine et je suis venu du sud du Maroc, les régions de Goulmim exactement. Et j'ai travaillé pendant 17 ans au front de la mine. Au Maroc, on n'avait pas de travail. On était jeunes. J'avais 17 ans à ce moment-là. Et toujours on arrivait d'aller à l'étranger, en France, surtout en France. Il y avait pas mal de patrons qui viennent, de Renault, de Peugeot, de Citroën. À ce moment-là, ils viennent au Maroc pour recruter les gens, pour travailler ici en France. Et nous, on a eu la chance, cette chance-là, d'aller dans les mines. Donc, dans les années 70, il n'y a que les mines, à ce moment-là, qui recrutent les gens. Donc, il y avait un certain Félix Moura qui est venu chercher de la main-d'œuvre jeune, costaud, bonne santé.
Je suis venu voir mes parents à Oulouse. Et mon frère, il travaille dans les mines à Ouarzazate. Et là, il m'a fait savoir que Moura, Félix Moura, le recruteur, était à Tazenart, à côté de Ouarzazate. Et je dis, bah, pourquoi pas moi aller à France? Je rêve toujours d'y aller à France. Et tout de suite, je suis parti. Et je suis arrivé, juste, ils étaient là, ils ont commencé à faire passer les gens comme genre de test.
J'ai au moins regardé dans le blanc des yeux 1 million d'ouvriers marocains, 1 million de candidats, pardon, hein, puisqu'il m'est arrivé sur la fin d'embaucher le père et d'embaucher le fils. Le garçon qui se présentait, ben, c'était du muscle, hein, puisqu'il n'y avait pas d'identité, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas d'entretien, c'était pas le but recherché, c'était du muscle.
Pour le sélectionner en semi-torse nu, et le monsieur Félix Moura, qui a 2 tampons, un rouge et un vert. Donc les gens, ils passent devant lui et regardent si vous êtes bien musclé, vous l'intéressez, vous avez un tampon vert. Et s'il n'est pas satisfait de votre état de santé, quoi, donc votre gabarit, etc., donc il vous met un tampon rouge et vous passez par une autre porte.
Il vous met le tampon où ?
À la poitrine, ouais.
Un peu comme des animaux, en fait.
Nous, on n'a pas pensé à ça avant. Mais après, on a su qu'ils ne considèrent comme des animaux. C'est vrai, ça nous a fait mal. Vraiment, ça nous fait mal. Parce qu'on s'est réveillé, c'était trop tard. Je crois.
Et M. Moura, la première chose... Moi, je croyais qu'il me serre la main. Mais c'est pour toucher la paume de la main. Est-ce que je suis un travailleur, aussi la main mou, etc. Et après seulement tout ce genre de tests, d'examen, nous fait passer dans une petite pièce où il y a quelqu'un qui commençait à remplir les papiers administratifs. D'ailleurs, il m'a posé la question, il m'a dit « Quel âge que t'as ?» Je lui ai dit « 18 ans ». Il m'a dit « Bah, 18 ans, tu peux pas y aller en France ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit parce qu'il faut avoir 22 ans. Sinon, Moura, il ne te prend pas. Je dis, bah, tu peux mettre 22 ans. Vous savez, nous, au Maroc, à l'époque, il n'y a pas de livre familial, il n'y a rien, on peut... Il a dit ce qui est ton père, je me souviens encore, il possède livre familial. J'ai dit non. Il a compté sur ses doigts, il a rajouté 5 ans. Au lieu de 18 ans, il a mis 22 ans.
C'est vrai, on s'est dit qu'on va aller en France, on va travailler avec des gants blancs, des blousons blancs, chemise blanche. Donc on est arrivé en France. Nous, on a cru qu'on va trouver de l'argent tombé par terre, quoi. Quand on est arrivé, on a vu que la France, c'est pas ce qu'on imaginait, c'est pas ce qu'on a pensé.
On a été surpris parce que quand on est arrivé, on voit les braquements. Écoute, un cas de prisonniers. Quand on voit parfois ces braques dans les films de western, pourris, pas de vie, noirci, sale. Les rues sales, on dit où on est. Ce qui est vraiment la France qu'on a rêvée.
La France, vous aviez quoi comme image quand vous étiez encore
au
Maroc ?
Non, la France, c'est quelque chose. C'est pour pas dire le paradis sur terre. Quand on voit les Français là-bas au Maroc, la manière dans laquelle ils vivent, et puis aussi. Dans les films, quand on voit Paris, tout ça.
Il y a deux amours, mon pays et Paris, pareil toujours, on paraît ravis.
Et on s'est réveillé au autour des baraquements où ils nous ont mis, il y a plein de neige. Oh là là, on a dit, qu'est-ce qui se passe là? Je dis, c'est la première fois que je vois ça, et j'étais étonné. Donc, il faisait froid. Mais ils nous ont dit, il faut sortir. Non, il fallait sortir, il faut sortir. Ils nous ont dit, vous allez descendre de fond pour la visite, le premier jour de visite.
Claude, vas-y.
D'accord, on y est arrivé. On montait dans l'ascenseur qui descend avec une vitesse incroyable. On s'est dit, ça y est, on est foutu. On a descendu au premier jour de visite. On a pris un petit train. Et on regarde des choses que c'est pas possible, c'est ça la France. Ils ont des bottes de sécurité, la casquette, la lampe pour voir au fond, pour éclairer le fond. Et un sac où vous mettez votre casquette, quoi, et votre bouteille d'eau. La mine, elle est noire, mais ce jour-là, elle était encore plus noire que la mine. La mine, le charbon est noir. Mais là, ce jour-là... Bon, je me souviens, on a descendu dans la taille, comme on appelle la taille de charbon. Là où je travaille, moi, il y a 950 mètres. Et là, on arrêtait là, on ne voulait plus avancer parce qu'avec le bruit, le rabot qui coupe le charbon, le blindé qui mène le charbon, le foudroyage derrière, les extensions, le bruit, les fournées qui parlent. Donc, on avait peur, c'est vrai. J'avais que 18 ans, j'étais un gamin. Et les autres qui sont avec moi, il y en a qu'un qui est âgé, il avait 25 ans. On a dit, on n'avance plus, on arrête là. Et l'ingénieur, il est arrivé, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ne voulait pas descendre jusqu'au fond. Il a demandé à un jeune avec lui, il a dit, quel âge t'as? Il a dit, 25 ans. T'as jamais fait la guerre, t'as jamais été à l'armée. Il a dit, moi, j'ai jamais été à la guerre, j'ai jamais fait l'armée. Moi, je vais retourner chez moi, je ne travaille plus ici. Donc l'ingénieur, il a dit, faut lui retourner. On est retourné, on est rentré à la maison. Et là on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Un mineur, ce qu'il a vécu, ce qu'il a dans sa tête, on ne peut pas expliquer. Ce n'est pas possible. Je peux vous dessiner, je peux vous... Mais ce n'est pas possible. C'est un travail très dur. Très, très dur. Autant plus, c'est que ce travail très dur qu'on a accepté, qu'on a fait avec d'autres, des Italiens, des Polonais, des Yougoslaves, des Espagnols, des Allemands aussi, même si c'est après la guerre, des Belges qui étaient là aussi, parce qu'ils étaient là bien avant. C'est que derrière nous, il n'y a pas eu de reconnaissance. Quand on monte de la mine, je vois les autochtones partent, trouvent leur famille, leurs parents, leurs enfants, dans une belle maison en briques. Ils n'ont pas dans les braquements. Quand j'approche la cité où on a été logé, c'était d'Offrénois, en Montigny. C'est juste que mes jambes ne marchent pas en marche arrière. Vous voyez ?
Produire davantage, produire mieux, c'est la productivité qui, en 5 ans, a valu à l'industrie houillère d'obtenir des résultats remarquables. L'indice de la productivité dans les mines est fourni par le rendement fonds. Or, le rendement en 5 ans s'est accru de 40%. Une telle augmentation est due d'abord à la mise en œuvre d'un immense plan d'équipement qui a intensifié la mécanisation du travail et qui a fourni aux houillères un matériel ultra-moderne.
Et à 67, j'ai eu un accident grave. Et cet accident-là a bouleversé ma vie.
Votre accident, il est lié à la mine ou...
Tout à fait, c'est au fond de la mine. Il y a une machine qui a été explosée, elle m'a esquinté ma jambe. C'est une machine qui nous permet de faire exploser le charbon pour faire un genre de chantier où les mineurs peuvent commencer à attaquer le charbon. On appelle le montage. Enfin, je ne peux plus y aller battre le charbon au fond de la mine. Et j'ai subi toutes les pressions, toute la vraie misère après mon accident. Parce que voilà, ils font tout pour que je dégoûte la France pour partir. Parce qu'à l'époque, les charbonnages allaient chercher le main d'œuvre au Maroc. Mais une fois qu'il est malade ou accident ou maladie professionnelle ou lassé les causes autres, ils font tout pour le renvoyer.
Jusqu'au 86, enfin 85, allez. Il y a le plan social qui arrive.
La fermeture des
mines. La fermeture des puits. Leur programme était comme ça. Hein. Ces gens-là, ils nous ont emmenés pour fermer les puits. Parce qu'ils nous ont emmenés du Maroc, ils nous ont mis sous contrat, ils ont dit en 85 on va fermer les puits.
Ils vous ont recruté, ils savaient déjà qu'ils allaient fermer.
Exactement. Donc ils ont dit, les autochtones, ils vont avoir l'âge de la retraite à ce moment-là, il n'y aura pas de problème avec eux. Et nous, les Marocains, terminez le contrat, vous partez.
Partir, difficile quand on a passé plus de 20 ans de sa vie en France, que les enfants y ont grandi. À la fermeture des derniers puits, les mineurs marocains réussissent à obtenir le statut de mineur après plusieurs jours de grève. Ils signent un plan de conversion qui prévoit le rachat des avantages en nature. Les avantages en nature, ce sont la gratuité du logement et du chauffage dont tous les mineurs disposent. En contrepartie, ils reçoivent 130 000 francs, mais ils ne saisissent pas qu'en acceptant cette prime, ils perdent ces avantages. Pendant les premières années de leur retraite, ils peuvent payer leur loyer tant qu'ils touchent les aides au logement et autres prestations familiales. Mais ces aides s'éteignent lorsque les enfants grandissent, quittent le foyer familial.
Il faut se battre. Il faut savoir comment se battre. Il faut savoir parler français. Il faut savoir se défendre. Il faut savoir répondre. Et cet handicap, les Marocains, ils l'ont. Ils savent parler les français. Ils ne comprennent pas. Parce que ces gens-là, quand on est parti au Maroc, on les a choisis. On a choisi cette main-d'œuvre qui savait ni lire ni écrire. Donc, pourquoi on a choisi ces gens-là? Pour bafouer leurs droits, pour les exploiter et les jeter dehors. Les gens, ils sont arrivés à 55 ans, ils ont fait la demande de la retraite des mines, les 15 ans qu'ils ont fait à la mine, ils toucheront dans les 600-700 euros. 650-700 euros. Ça, c'est la retraite des mines. Retraite du régime général, ceux qui sont travaillés à l'extérieur, il faut attendre 60 ans. Donc, ils reçoivent une facture de loyer de 450 euros. Il dit, moi, je ne paye pas ça. C'est pas possible. Mais je touche 650. Et je paye un loyer de 450. Qu'est-ce qu'il va me rester 150 euros pour vivre?
L'ambiance est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Le conseil des prud'hommes de Douai rend son jugement dans l'affaire opposant M. Lassène Attar et autres à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en présence de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Le Conseil dit que l'attitude de refus d'attribution à messieurs Lassène Attar, Mohamed Abgab, Tami Adardour, Mohamed Aït Oumgar, Nasser Alayan, Lassène Azeroual, Idi Bachar, Bourim Ezaouid, Mohamed Sali et Abdellah Samat, ouvriers mineurs de nationalité marocaine, d'avantages sociaux concernant le logement et le chauffage eu égard à leur nationalité et à leur âge, adoptés par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, doit être regardé comme discriminatoire à leur égard. Le Conseil condamne l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à payer à chacun des demandeurs une somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance résultant de refus discriminatoire. Ce jugement est dit, l'audience est levée.
Thank you.
L'Agence nationale de garantie des droits des mineurs a fait appel de cette décision. Les anciens mineurs marocains ont maintenant 3 mois pour préparer leur défense. C'était un reportage de Roxane Pour, réalisé en mai 2010 à l'École supérieure de journalisme de Lille.
Voilà, les enfants de la base où j'y suis. La base où j'y suis faisait des petits aujourd'hui. Ce dernier reportage montre qu'on ne perd pas toujours, mais que le combat continue. Merci à toutes et à tous. Vous retrouverez ces reportages sur le site de France Inter, la rubrique émission La Basse, j'y suis. Merci à Pierre Savary, à toute l'équipe de l'ESJ. Merci à Antoine Chao qui a mené ce stage. À la technique aujourd'hui, Basile Bocquer et Eric Mainviel. C'est Koy Nguyen et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission, assisté d'Agnès Lebot. Et Céline Rouzet attend vos messages au répondeur de La Basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Miss Maf. Je viens vous rappeler, parce que c'est très important, que le 27 mai, c'est la journée nationale de dépistage anonyme et gratuit des cancers de la peau, organisée par le Syndicat national des dermatologues. Il vous suffit d'appeler le 3113 pour connaître le centre de dépistage le plus proche de votre travail ou de votre domicile. Alors faites-le. Pour votre santé, la Maf vous remercie, et moi aussi.
C'est la Maf.
Appel gratuit depuis un poste fixe.
Voilà, et puis je vous rappelle que Noam Chomsky sera en visite à Paris à la fin de cette semaine, à l'invitation du Collège de France, entre vendredi et lundi. Notamment, il donnera une conférence samedi 29 mai à 16h à la Mutualité, à l'invitation du monde diplomatique. Mais hélas, je peux vous dire que tout est complet depuis des semaines, que ce soit au Collège de France ou à la Mutualité. Alors là-bas, si j'y suis, à penser à vous. Et nous avons organisé un certain nombre de séances supplémentaires de notre film Chomsky et compagnie. Et je vous donnerai dans les jours qui viennent plus précisément le programme. Mais je peux déjà vous dire que le jeudi 27, nous aurons une séance à l'Espace Saint-Michel à 19h50. Et le vendredi 28 mai, au cinéma L'Entrepôt, 2 séances, une à 18h et à 21h. Voilà, il est 16h30 sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour La Basse, j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Alain Roussel. Salut!
Tout de suite, Roland Garros et plusieurs Français qui se battent en ce moment même pour leur qualification. Paul-Henri Mathieu, Virginie Razzano. Et puis, c'est la rencontre du jour. Richard Gasquet qui a commencé son match face au 4e joueur mondial, l'Écossais Andy Murray. On est dans le premier set. Hein, Olivier Poujade, finalement, Gasquet s'en sort pas trop mal pour l'instant.
Il est dans le coup, Richard Gasquet, effectivement. Depuis le début de cette rencontre, il est en train d'agresser Andy Murray, numéro 4 mondial, sur son service. Il a fait preuve de beaucoup d'autorité sur ses engagements. Le Français qui pointe, rappelons-le, à la 63e place mondiale. Il mène 2-1 et vient de se procurer 2 balles de break sur le service de Murray. Murray qui est parvenu à effacer ces 2 balles de break, 40 partout, donc sur le service de l'Écossais. Rappelons que Richard Gasquet arrive ici peut-être un petit peu émoussé physiquement, mais avec énormément de confiance. Il a enchaîné 10 victoires d'affilée sur terre battue en remportant le tournoi Challenger de Bordeaux et surtout ce week-end, le tournoi de Nice. Il a beaucoup de confiance et ça se voit sur le terrain. Il se déplace très très bien, il est très agressif, il est dans le coup définitivement. Richard Gasquet, 2-1 pour lui dans la première manche et avantage de nouveau pour lui sur le service d'Andy Murray. Roland Garros, Olivier Pouja, France Inter.
Et on peut déjà noter les victoires sans surprise du Suisse numéro 1 mondial Roger Federer et celle du Serbe Novak Djokovic. Des délais beaucoup trop longs pour les ostréiculteurs. Vendredi dernier, à cause d'une algue toxique, les services de l'État ont une nouvelle fois interdit de ramasser, vendre ou consommer les huîtres. Une interdiction qui doit durer 2 semaines, le temps d'effectuer les 2 prélèvements nécessaires. La profession dénonce le manque de personnel en ce week-end de Pentecôte et demande à ce que ces tests soient pratiqués au plus vite avec des résultats avant la fin de semaine. Des gangs armés se sont affrontés avec les forces de l'ordre en Jamaïque. 2 policiers ont été tués, 6 blessés. L'état d'urgence déclaré à Kingston et certains quartiers évacués. Des gangs bien décidés à empêcher l'extradition vers les États-Unis.
États-Unis de l'un des leurs, un parrain de la drogue. Les trois Mauritaniens accusés d'avoir tué quatre touristes français en 2007 risquent la peine de mort. C'est en tout cas ce qui a été requis aujourd'hui devant la cour criminelle de Nouakchott. Trois jeunes hommes qui, à l'ouverture du procès hier, se sont présentés comme des soldats d'Al-Qaïda entraînés dans des camps. On en sait plus sur les deux touristes enlevés au Yémen dans la région de Bani Mansour. Aujourd'hui, ce sont des Américains. Les ravisseurs, membres d'une tribu yéménite, réclament en échange la libération de l'un des leurs emprisonnés, toujours dans la capitale. Enfin, vous êtes nombreux sur la route du retour après ce week-end prolongé de la Pentecôte. Il y a déjà des ralentissements sur l'A7 entre Orange et Lyon. Idem sur la 10 de Bordeaux à Poitiers. Si vous n'êtes pas encore parti, un conseil, attendez 20 heures avant d'entrer en région parisienne ou lyonnaise.
Les questions du mercredi. Une émission de France Inter et du journal Le Monde avec Dailymotion, tous les mercredis à 19h20.
L'invité de Jean-François Aquili ce mercredi est Marc-Philippe Daubresse, le ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives. Il sera interrogé sur les retraites, les apéros géants et sur l'éventualité d'un candidat centriste en 2012. Rendez-vous avec Marc-Philippe Daubresse dans les questions du mercredi.
Une émission présentée par Jean-François Aquili avec Françoise Fressos du Monde, mercredi à 19h20.
France Inter et le Théâtre du Rond-Point présentent
Le Soir des Lions.
Spectacle de François Morel, mis en scène par Juliette.
Alors, ça y est, ça faisait un moment que vous étiez dessus, hein.
Ça faisait, j'ai pas compté.
Et ça commence par
Ça commence par une introduction.
Pas bête.
Retrouvez François Morel du 26 mai au 27 juin au Théâtre du Rond-Point et sur France Inter.
France Inter. France Inter. La différence.
16h04 sur France Inter. Bonsoir Frédéric Lodéon.
Oui, bonjour, bonjour à tous. Carrefour de l'Odéon. Passe ton bac d'abord, ça on l'a entendu très très souvent, moi-même d'ailleurs. Et on n'est pas obligé d'obéir, mais en tout cas, bac pour nous évidemment c'est un exercice régulier et ça n'est pas fatigant, il suffit de l'écouter. Par contre, lui, il s'est épuisé à écrire des cantates, des oratorios, des passions pour toutes les circonstances religieuses, c'était vraiment un forçat de l'écriture. Et donc ce serait dommage qu'il se soit décarcassé pour rien. Voici, tiré de la cantate pour le deuxième jour de Pentecôte, ainsi Dieu a-t-il témoigné son amour pour le monde, c'est-à-dire en envoyant son fils, d'après saint Jean, un cœur. On n'est pas forcément d'accord avec les paroles, puisque ça dit « Celui qui croit en lui ne sera point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Ah bah non, ce serait un peu injuste, alors il suffirait de croire pour faire n'importe quoi. En tout cas, la musique est toujours là, dans un style fugué, noble, le style le plus construit de toute la musique classique. C'est beau comme du Bach, bien sûr.
Thank you.
Celui qui croit en lui ne sera point jugé, le dernier chœur de la cantate pour le deuxième jour de la Pentecôte de Jean-Sébastien Bach par le chœur et l'orchestre Bach de Munich, dirigé par Karl Richter. Après le sacré, le séculier, et puis pour saluer l'ouverture de Roland-Garros, fameux tournoi de tennis, chacun le sait maintenant, voici, et on trouve en musique, une sorte d'illustration, un peu douce peut-être, me direz-vous, un peu romantique. C'est Claude Debussy qui a signé « Je », un poème dansé, sur un prétexte de Nijinsky, le fameux chorégraphe. Le voici, ce prétexte. Dans un parc, au crépuscule, une balle de tennis s'est égarée. Un jeune homme, puis deux jeunes filles s'empressent de la rechercher. Et la lumière artificielle des grands lampadaires électriques qui répand autour d'eux une lueur fantastique leur donne l'idée de jeux enfantins. J'ai envie de dire, ben voyons. Et puis on se cherche, on se perd, on se poursuit, on se querelle, on se boude sans raison. La nuit est tiède, le ciel baigné de douce clarté, on s'embrasse. Ah voilà, quand même. Mais le charme est rompu par une autre balle de tennis jetée par on ne sait quelle main malicieuse. Surprise et effrayée, le jeune homme et les deux jeunes filles disparaissent dans les profondeurs.